With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Alain Mercier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, grande nouveauté, incroyable, Alain Mercier n'est pas derrière la technique, il est devant, au micro, avec moi.
Salut Steph.
Salut Alain, c'est pour parler de Warrior.
Warrior,
voilà.
Ouais.
Alors, un film... De Gavin O'Connor, c'est ça?
Gavin O'Connor,
si je dis pas de bêtises.
De 2011.
Voilà, sur lequel t'es revenu pour me dire « Allez, vas-y, faut qu'on fasse un épisode sur Warrior. » Ce que j'avais pas vu jusque-là. Étonnamment d'ailleurs, parce que c'est quand même l'histoire de deux frères qui se foutent sur la gueule dans une cage. Donc normalement, en fait, avec un peu de sport à la Rocky, on va dire, j'aurais dû voir ce film-là, en fait, depuis un moment. Et du coup, je l'ai découvert pour les besoins de cet épisode, de ce podcast. Donc... J'imagine que le choix, en fait, de voir, ça a été de faire ça parce que toi-même, t'es à la base très intéressé par ce sport.
Ouais, je suis plutôt passionné par le MMA. Mmh. Je suis ça depuis déjà 15 ans, enfin voilà. Et Warrior, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un... Comment dire, c'est le meilleur film un peu par défaut sur le sujet.
Il n'y en a pas beaucoup.
Et c'est un film qui aborde le sujet avec une certaine honnêteté. Et
De manière frontale. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique justement de ce sport-là, c'est que dans tous les films sportifs, en fait, en général, on parle de la boxe ou ce genre de choses. Là, en fait, souvent, dans les autres films, c'était plus des trucs qui étaient vus comme des tournois un peu interlopes. Donc, toi, je pense aux films comme Never Back Down, un truc comme il y avait Fighting aussi.
Fighting, c'est plutôt sur le combat de rue, en fait.
Oui, voilà. C'est un peu la vision que les gens ont à la base de ce sport avant que ça devienne justement vraiment un phénomène à la fin des années 2000. Quoi.
C'est ça.
Donc, c'est aussi, en fait, le film date de 2011, hein, mais il a été tourné en 2009. C'est avec Tom Hardy et avec j'oublie le nom de
Joel Egerton,
merci, voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, c'est un film qui est quand même un film avec une certaine tenue, en fait. Tu sens que c'est à la base, ça se veut être un drame, c'est pas un film de bourrin ou d'action comme les Never Back Down, qui sont finalement des kickboxers ou des trucs comme ça, mais remis au goût du jour avec des acteurs de sexy dance ou je sais pas quoi.
Voilà, c'est ça, c'est un peu, oui, ça, sexy dance dans une cage, quoi.
Voilà.
L'idée de Warrior, c'est effectivement de reprendre un peu des schémas d'histoire de personnages du MMA, parce que notamment, pour pitcher le film rapidement...
Pitch le film, s'il te plaît, à ton tour.
Oh là là. Rapidement, donc on a Brendan Conlon qui est joué par Joel Egerton, qui est un prof de physique qui est prof le jour et combattant de MMA dans des endroits un peu douteux la nuit.
Ouais.
Et donc il fait ça pour pouvoir payer la traite de sa maison. Et de l'autre côté, on a Tom Hardy qui joue son frère, Tommy Riordan, qui a repris le nom de sa mère. Bon, ça c'est pour des histoires, voilà.
Ouais.
Qui veut être entraîné par son père avec qui il est en froid depuis
des
une dizaine d'années. Et pour un tournoi de MMA. Voilà.
Le frère qui est interprété par Nick Nolte, le père qui est interprété par Nick Nolte et qui est un ancien alcoolique. Voilà, c'est un peu un enjeu dans le film. Quand même.
C'est un peu un enjeu. Ouais. C'est pas toujours bien traité. Je pense.
C'est étrange en fait, mais on va en parler de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est avant qu'on parle vraiment de déconstruction en fait du scénar, parce que c'est vrai que autant le dire assez vite. Moi, j'ai pas été forcément convaincu par le film, comme de manière générale, je suis pas hyper convaincu en général par le cinéma de Gavin O'Connor. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'avais vu son polar en fait d'avant, Le Prix de la Loyauté, avec Edward Norton, si je dis pas de bêtises. Écrit par Joe Carnahan. Et c'était pas... Il y avait quelques trucs pas mal. Il y a notamment, je me rappelle, d'une scène où il menace en fait de torturer un bébé avec un fer à repasser, qui était assez, tu te dis, putain, assez violent,
assez
quoi.
Noir, ouais.
Assez noir et tout. Et rien que l'idée, en fait, si tu veux, parce que c'est... on n'a pas forcément ces idées-là, nous, tu vois. Donc en fait, quand tu regardes un film comme ça, tu te dis, putain, ils vont faire ça dans le film, tout de suite, c'est en stress, en fait. Rien qu'à l'idée qu'on te le montre. Il se trouve que dans le film, ils te le montreront pas, mais ils le font pas. Mais voilà, c'est... il y a deux, trois trucs comme ça, mais ça restait un polar un peu, comment dire, je trouve, un peu extérieurs. On sentait qu'ils étaient un peu extérieurs au sujet. Ça se voulait noir, ça se voulait dur, mais ça n'était pas tant que ça, quoi. Et je trouve que j'ai un peu cette problématique-là sur Warrior aussi, mais on va en parler plus tard. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que voilà, tu partais du point que, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe dans ce truc-là, c'est que les deux frères vont finir par participer au même tournoi, se retrouver en fait à se battre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans cet univers-là du MMA. Donc du coup, ça s'inspire de beaucoup de personnages qui existent déjà.
C'est
et ça, c'est peut-être qui est intéressant, parce qu'il donne une certaine véracité, on va dire.
Bah déjà, pour commencer, Brendan Conlon, donc le personnage de Joel Egerton, il est directement inspiré par un ancien champion de MMA, mmh, qui s'appelle Rich Franklin, qui était champion de l'UFC en catégorie poids moyen, et qui lui-même était déjà prof de maths. Donc voilà, c'est un ancien prof de maths qui est devenu champion UFC. De la même manière, on voit Tom Hardy, donc Tommy, qui dans une salle de sport boxe un contender, un combattant professionnel.
Il le ramasse.
Et il l'étale la tête entre les cordes, et le mec il finit dans les cordes, etc. Comme pareil dans un combat de MMA. Et en fait, il y a toute une espèce de mise en place, en fait, de petits éléments qui ont fait l'histoire de l'UFC notamment et du MMA en général, qui servent à nourrir le film. Donc je pense notamment au personnage du russe, le combattant russe Koba, qui est directement inspiré de Fedor Emelianenko, qui est un grand champion poids lourd, etc., qui est réputé pour être assez taciturne et froid dans le ring. Et le personnage donc joué aussi par un lutteur champion olympique qui s'appelle Kurt Angle, reprend un peu cette idée-là. Hein. Il est là, c'est une espèce de monstre, une bête dans la cage. Enfin voilà, pour reprendre un peu cette imagerie de violence en fait qui est propre à l'UFC, au MMA en général. Donc on reste encore un peu là-dedans. Pareil, l'entraîneur qui est joué par Frank Grillo, il est inspiré par un grand entraîneur qui s'appelle Greg Jackson, qui a une pelletée de champion.
De la musique classique pour rythmer les combats et
le jeu des combats.
Et voilà, et puis même le calme intérieur des combattants, quoi.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un aspect dans le film qui est pas qui, moi, à mon sens, en fait, manque un peu. C'est vaguement évoqué par des textes, par des dialogues, suggéré par la musique. Donc on pense à l'hymne à la joie, voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est, je pense, après ça c'est pareil, c'est un autre truc. C'est pas un film d'action, hein, Warrior, mais par contre, ça s'adresse, je pense, aux fans de films d'action, d'une certaine manière. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Hein. Mmh. C'est-à-dire que je pense que de la même manière que les gens qui aiment Rambo font forcément aller voir Rocky parce que c'est le même comédien. Il se trouve que bon, il y a Tom Hardy, mais qui a fait quand même quelques films d'action, mine de rien, dont Mad Max Fury Road, évidemment, mais pas que. Mais c'est pas seulement ça l'idée, c'est que je pense qu'en fait, si tu veux, c'est le premier public qui va voir ce genre de film. Parce que c'est un film. Éventuellement, il y a les fans de MMA qui vont regarder ça pour ces raisons-là, mais en fait, autant regarder des matchs. C'est voilà. Et donc, il n'y aura pas beaucoup plus. Ils auront même, à mon avis, des matchs moins intéressants dans le film que dans les vrais trucs.
Clairement.
Ils sont fans de MMA, c'est ça la problématique. Donc, à mon avis, ça s'adresse d'abord aux fans de films d'action. Donc, du coup, faire un film comme Warrior, utiliser la musique de l'hymne à la joie de Beethoven, en fait, et même 25 ans après Die Hard ou 30 ans après Die Hard, c'est quand même, je trouve, étrange comme logique, tu vois, parce que forcément, en fait, ça teinte le film. Non pas que l'hymne à la joie n'existait pas avant Die Hard, évidemment, hein, mais je parle vraiment pour ce public spécifique. Hein. Donc le choix, je trouve le choix étrange. Je trouve que ça ne sert pas trop effectivement le truc. Et puis effectivement, après, il n'y a pas de mise en scène autour de ça. Mais ça, c'est encore une autre problématique du film, je trouve.
D'un autre côté aussi, la volonté du réalisateur, c'était clairement d'essayer de bâtir le Rocky du MMA. Mmh. C'est-à-dire, on voit rien que le titre posé, c'est le même lettrage que Rocky. Mmh. On a donc rien que dans l'histoire, c'est deux underdogs, hein, les deux frangins. Ils ne sont pas du tout du milieu. Enfin, il y en a un qui est plutôt dans l'underground, qui n'est pas du tout classé, et l'autre qui sort de nulle part. Et on a des conflits conjugaux, un conflit conjugal un peu à la Rocky 4, et le combattant russe dont
Rocky,
je parlais.
Dans Rocky 2, qu'elle ne veut pas qu'il se batte.
Ouais.
Mais dans Rocky 4, qu'elle le rejoint à la fin.
Dans Rocky 4, elle le rejoint à la fin.
Elle le rejoint en Russie, mais dans Rocky 2, en fait, à la base, elle ne veut pas qu'il se batte parce qu'elle a peur justement qu'il devienne. trépanée, quoi. Et ouais. En fait, le truc, c'est que elle tombe dans le coma, et en fait, c'est quand elle ressort du coma, lui, en fait, n'arrive pas à comment dire, à s'entraîner. Et quand elle se relève du coma, en fait, elle lui dit
elle de le libère. De ouais. Ouais. Et je reparle encore du personnage de Koba, donc qui est aussi inspiré d'Ivan Drago. Ouais. Qui curieusement en 2011 porte des shorts avec le drapeau de l'URSS.
Ouais, oui, ouais.
Et c'était clairement une référence à ça. De la même manière, on a aussi un autre détail en fait qui a fait aussi la réputation du MMA sur Internet, c'était les combats de rue. Il y a un champion qui s'appelle... Enfin, non, c'était pas un champion, mais un ancien combattant qui s'appelle Kimbo Slice, qui a disparu il y a quelques années.
Ouais, il est mort. Ouais.
Qui lui, en fait, était réputé pour être une grosse barrique qui cogne dans des jardins, des combats de rue comme ça. Et de la même manière, en fait, on voit avec la vidéo du KO de Tommy dans la salle de gym, qui fait le tour du web et qui crée, en fait, un effet de buzz, en fait, sur le personnage. Ça, c'est pareil, c'est des logiques qui sont reprises là.
Ça, c'est ce qui est arrivé à Kimbo Slice.
Bah, voilà, c'est Kimbo Slice, s'est fait repérer parce que ses vidéos tournaient aussi sur Internet. Ouais. Tout le monde, le mec était hyper massif. Hein,
en plus, il a un vrai charisme, en fait. Kimbo, il a une gueule, en fait, que tu reconnais, quoi. Toi, tout de suite, tu reconnais tellement, d'ailleurs, que moi, je me rappelle de lui il y avait un film avec Michael J. White, dans lequel il se fait éclater, là, qui était, je sais plus quoi, une Bones, là. Enfin, je vais retrouver le titre.
Ouais. J'ai perdu aussi.
Je vais retrouver le titre parce qu'en fait, tu m'as pris de court là-dessus. Mais aussi... je sais pas si tu te souviens de ça, parce que toi je sais que tu joues aussi, il apparaissait dans GTA 4, mais alors dans le DLC Lost and Damned,
ouais.
Ou alors Lost and Damned ou Gettoni, Ballad of Gettoni, je sais plus, l'un des deux, mais je crois que c'est dans Lost and Damned, parce que t'as des combats de MMA cachés en fait, si tu veux, c'est pareil, des combats de rue, et t'avais Kimbo Slice, il avait sa gueule en fait, avec sa barbe et tout, sa tronche, comment dire...
très identifié, très
charismatique. Ouais, voilà, c'est ça quoi, ouais. et du coup... c'était, comment dire, enfin moi je l'ai identifié comme ça, je savais même pas, si tu veux, qu'il s'était fait, comment dire, une répute sur Internet, sur YouTube et tout ça, avec ces trucs quoi.
Ouais, c'est des vidéos qui ont tourné, après bon, il a une carrière professionnelle, bon, qui était pas aussi brillante que ça, parce qu'après, voilà, on rentre dans le monde professionnel, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est pas forcément un vrai cogneur
c'est ça.
De rue, mais c'est pas ça. Forcément quelqu'un qui a une technique quoi.
C'est ça, ni une technique, ni une tactique. Et après voilà, dans cette volonté aussi de ils sont allés assez loin dans cette idée de chercher à coller au MMA, parce que t'as carrément en coproducteur, tu as les fondateurs de la marque Tap Out, c'est un équipementier de MMA qui a aussi fait une société de production qui produit des émissions télé, et qui se sont associés en fait à Gavin O'Connor pour produire le film.
D'ailleurs, lui-même joue le rôle du fondateur.
Ouais, de l'organisateur.
Voilà, c'est ça.
Une sorte de Dana White.
Ouais, c'est ouais. Ça. Alors, le film pardon, avec Kimbo Slice et Michael J. White, c'était Blood and Bone.
Blood and Bone, c'est
plutôt,
ça.
Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympathique.
Je ne l'ai pas vu.
Pour un truc de bourrin, tu vois, mais ça passait, quoi. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, en fait, de ce que le film... pour moi, ce qui est... C'est-à-dire, c'est pas un mauvais film, hein, c'est un film... tout à fait regardable dans l'absolu, mais je trouve qu'il en fait a les mêmes problématiques que ce que j'avançais sur le prix de la loyauté. C'est vraiment cette espèce de, malgré la volonté en fait de faire quelque chose d'habité, un espèce de regard toujours un peu extérieur, parce que je trouve qu'en fait, même si c'est pas des films qui sont laids visuellement ou quoi que ce soit, hein, c'est pas des films voilà, ça reste relativement soigné. Il n'y a pas de mise en scène impliquante, je trouve, en fait, dans le récit. Là, la problématique, c'est que tu l'as dit, il y a, une volonté, en fait, d'en faire le Rocky du MMA. Mm-hmm. Ce qui, bon, peut être louable, si ce n'est qu'en fait, la boxe et le MMA, c'est quand même deux sports différents. Alors moi, je n'y connais rien, hein, voilà, mais je regarde vraiment ça en termes dramaturgiques, tu vois. Dans la problématique de Warrior, qui dure quand même 2h20, et qui aurait mérité en fait qu'on retire
une bonne demi-heure
parce que je pense que tu as beaucoup de choses qui pouvaient voilà. Tu as la volonté en fait, si tu veux, de d'utiliser des codes, tu l'as dit déjà en fait, si tu veux, vis-à-vis de certains personnages, vis-à-vis de certaines tournures du récit, mais tu as aussi la volonté d'utiliser des codes en fait qui sont liés à Rocky, en fait qui en tout cas est énormément popularisé par Rocky. Il y a notamment le montage, le training montage. Donc tu as un training montage dans le film qui, moi, je trouve, en fait, est assez ringard, finalement. Et en tout cas, En tout cas, il n'a certainement pas la force de celui d'un Rocky, c'est-à-dire l'idée de limite de te donner envie de te mettre
de te lever
au sport,
le matin et de faire du sport, d'aller courir.
Alors que moi, je suis pas du tout ce que je fais, quoi. mais il y a avec des espèces de split screen en fait, qui moi je trouve finalement sont pas très. Moi, franchement, en regardant cette scène, je me disais mais qui en fait fait qui en fait qui est quelqu'un qui on va dire a un sens esthétique, qui essaye d'avoir de créer quelque chose, en fait accepterait. Et là, je parle pas que de split screen, hein, tu vois. De fait de dézoomer ces images en fait pour
les faire glisser,
ouais, etc. Voilà, en fait ça existe, hein, le split screen au cinéma, mais en général c'est très esthétique, ça sert quelque chose en fait, si tu veux, quand De Palma le fait, y compris par exemple Yann Kounen dans Doberman, quand ils utilisent ce genre d'effet là c'est des effets très spécifiques, très volontaires, et tu sens que les plans concernés en fait sont pensés pour rentrer dans split screen, alors que là t'as juste, en fait, si on se démerdera au montage, t'as l'impression que c'était ça la logique, quoi.
Ah, c'est ça le problème.
Voilà, et en fait, du coup, ça, c'est le premier truc qui fonctionne pas.
Ça, c'est l'idée du monteur, même, d'ailleurs, je te coupe là-dessus. Oui. C'est le monteur, en fait, c'est John Gilroy qui a monté Narc de Joe Carnahan, une fois. Il y a beaucoup de croisements, en fait, entre l'univers de Carnahan et de Gavin O'Connor, bref, surtout sur l'équipe technique, bref. Et en fait, donc je crois que c'est dans le commentaire audio du film, il y a Gavin O'Connor qui est avec son monteur John Gilroy, qui expliquait que lui, justement, il avait un peu du mal à articuler cette transition entre le fait d'être qui se passe d'amateur à combattant professionnel, et il cherchait un peu quelque chose. Et John Gilroy est venu, en fait, en disant bah tiens, on va essayer le split screen, je l'ai déjà fait sur Narc, ça a plutôt bien marché, et il est venu avec cette idée-là. Moi, j'ai le même problème que toi avec cette séquence, c'est qu'elle elle expédie un peu justement le côté on passe de rien à champion, en fait. C'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose qu'on voit dans Rocky, c'est-à-dire il commence à avoir
fait elle l'expédie parce qu'il y a justement un des gars qui est, parce que c'est aussi ça le truc, c'est que Rocky il s'entraîne tout seul,
c'est ça,
alors même sans son entraîneur, mais là en l'occurrence c'est pas forcément réaliste, on va dire, dans le cadre de Rocky c'est pas ça la question, c'est que il y a un seul combattant, alors qu'en fait lui il a une écurie, en fait, le personnage de Frank Grillo, dont fait partie le personnage d'Egerton. Mais le dans ce truc, ce qui est expédié effectivement, c'est qu'il y en a un qui se claque le genou ou je sais pas quoi, et en fait en gros il peut plus combattre,
c'est ça.
Donc d'un seul coup l'autre arrive derrière, il fait est-ce que tu me foutrais un petit peu dans la boucle pour que j'aille faire ce championnat, j'ai besoin de la thune, en gros, quoi, ce qui est une motivation comme une autre, hein.
Il a quand même sa maison
mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait il sait quand même qu'il y a son frère qui combat là-dedans, et c'est jamais amené. Il y a tout un tas de problématiques comme ça. Mais indépendamment de ça, je trouve en fait il y a pas le peps, quoi, il y a pas l'envie, c'est-à-dire en fait de ce qui est au moins la qualité première de Rocky, quoi. Et bon, ça m'étonne absolument pas que ça soit une idée du monteur, hein, que ça soit pas pensé à la base sur le plateau. Mais ce que j'allais dire, c'est que aussi il y a cette autre problématique en fait qui est liée au MMA. Et moi, dans le sport en soi, c'est une chose, mais le MMA, on sait que c'est brutal, c'est-à-dire que c'est même en fait. Alors, je sais pas si c'est la
c'est
raison.
Très spectaculaire. Oui,
oui, mais je sais pas si c'est la raison. Comment dire, pour laquelle ça a été interdit en France pendant longtemps, jusqu'à début 2020 en fait, en gros, où ça a été un peu
c'est légalisé depuis,
ça s'est légalisé, voilà. Je sais pas si c'est ça la raison exacte, mais on sait qu'il y a des combats qui peuvent se tenir, et d'ailleurs le film le montre, tu vois, en un coup, c'est-à-dire un chaos direct, c'est réglé, et en fait le combat est terminé, quoi. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les exhibitions de ce ordre là c'est pas comme un match de boxe, en fait, où il y a un match de boxe le soir, et en fait, on part, et en fait, là, d'un seul coup, en termes dramaturgiques, tu peux tourner autour de tous les rounds qu'il y a, tous ces trucs-là, etc., etc., parce que le combat est pensé différemment. C'est-à-dire que la pratique est différente. Là, dans le MMA, il y a, en général, quand tu as une exhibition à Las Vegas, ce genre de choses, etc., etc., là, ils sont à Atlantic City, à la fin, c'est plusieurs combats d'affilée. C'est-à-dire dans la même soirée, et du coup, il y a un tas de combattants à, comment dire,
qui
défile, et en fait il faut les éclater pour arriver jusqu'au
top.
Ouais. Donc du coup, en termes dramaturgiques, en termes de le problème, c'est qu'en fait là il n'y a plus de montage. D'un seul coup, en fait, t'as 40 minutes, c'est ça, c'est 40 minutes, on voit le personnage de, comment il s'appelle, alors c'est sur 2-3 soirs, hein, mais en fait, ouais, t'as le personnage de Tom Hardy qui en éclate quelques-uns, le personnage d'Egerton qui galère mais qui en éclate quand même quelques-uns, pour qu'au final en fait ils se rejoignent pour se foutre sur la gueule, quoi, et régler une problématique qui date
familiale,
de familiale, qui date de X temps, quoi. Et en gros, leurs problématiques à l'adolescence, on comprend qu'ils sont pas du tout qu'ils sont en froid eux aussi, mais en fait on sait pas.
On le découvre qu'une fois qu'ils sont à Atlantic City.
Ouais, voilà. Et en plus, c'est assez léger, en fait, mine de rien, parce que c'est pas habité, encore une fois. C'est-à-dire que, en gros, tu sens que en fait dans cette scène tu le découvres parce qu'ils sont sur la plage, ils sont en train de s'en parler, c'est la seule fois où ils vont vraiment avoir une conversation, et cette conversation elle se veut ultra cinématographique parce qu'il va te filmer ça sur la plage avec la vue d'Atlantic City derrière, etc., etc. Mais du coup, en fait, c'est exactement à ce moment-là où tu aurais envie de dire, mais en fait, il faut qu'elle soit intimiste, cette conversation. Et c'est là où c'est problématique. Même problème, je trouve, avec l'arc narratif du personnage de Nick Nolte. C'est un ancien alcoolique qui répète à chaque fois, en fait, dès que c'est possible, j'ai 1000 jours de sobriété. C'est un exploit, en fait, pour quelqu'un comme lui, et c'est un exploit pour un addict, en fait, pour un alcoolique. Le personnage de Tom Hardy le pousse à reboire, et c'est expédié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est traité, on le voit, il y a une scène où il se bourre la gueule, mais en fait, c'est un enjeu énorme, en fait, pour quelqu'un qui, justement, a réussi à arrêter de boire pendant l'été. Normalement, il retombe dedans, quoi. Et sauf que ça, c'est plus jamais retraité derrière. C'est plus, tu vois, pour les besoins du récit. Et c'est là où, en fait, sur un film de 2h20, tu te dis, c'est quand même dommage que vous ne preniez pas le temps, en fait, de gérer ces vraies problématiques intimistes, les créer, enfin, les travailler, et surtout avec des acteurs de qualité, quand même. Je veux dire, le trio d'acteurs, Nick Nolte, Tom Hardy et Edgerton, c'est des bons acteurs, quoi. C'est, voilà. Sauf que, bah, du coup, je trouve que le personnage d'Hardy, alors, tu vas peut-être peut-être, je sais pas, toi, t'aimes bien le film, mais sans...
J'aime bien le film, mais après, il est brinque-ballant, et ça, je le reconnais. C'est-à-dire que, là, ce que tu dis sur Nick Nolte, c'est assez intéressant, parce que le personnage de Paddy Conlon, il a été écrit pour Nick Nolte. C'est-à-dire que Nick Nolte, en fait, il habite la même rue que Gavin O'Connor. Et Gavin O'Connor, il écrivait donc avec son scénariste Anthony Tambakis, ils écrivaient Warrior, et régulièrement, en fait, il descendait voir Nick Nolte pour lui faire lire des pages, il lui demandait ce qu'il en pensait, etc. Donc il y avait vraiment tout un travail avec Nick Nolte là-dessus. Et bizarrement, effectivement, quand on regarde le film, on n'a pas l'impression que Nick Nolte, c'est l'entraîneur de Tommy. Dès l'ouverture du film, il sort d'une église, donc tu te dis, tiens, le mec, moi, pour avoir revu le film plusieurs fois, parce que j'ai dû le voir trois fois en tout, les fois où je l'ai revu, à chaque fois que je vois la scène d'ouverture, la première scène, c'est Nick Nolte qui sort de l'église. On se dit, tiens, donc il est alcoolique, il sort, il va à l'église, il essaye un peu de racheter ses péchés, parce qu'on apprend plus tard qu'il avait il était alcoolique et violent. Donc c'est pour ça que la mère, là, on spoil un petit peu.
Ouais, bon, la mère l'a quitté avec Tommy. On le sait dès le début, voilà. c'est une conversation qu'ils ont.
Oui, c'est quand Tommy arrive à la maison. Et donc on voit ça, on voit Nick Nolte, donc il y a des choses qui sont posées sur son alcoolisme. Il écoute Moby Dick en cassette il se compare un peu au Capitaine Ahab, donc il essaye un peu de chercher sa rédemption là-dedans. Et en fait, il accepte d'entraîner son fils. Il y a une scène que je trouve assez sympathique où ils se retrouvent tous les deux au dîner et donc Tommy demande à ce qu'il soit son entraîneur, et l'autre tout de suite il réagit comme un entraîneur, il lui dit bon déjà t'es caché, tu vas me les virer,
sauf que ça n'existe plus après,
et après c'est ça, il n'y a plus rien. C'est à dire que le seul souvenir moi après qui me reste de leur entraînement, c'est juste Nick Nolte qui débarque le matin, qui lui apporte le café, l'autre se réveille, l'envoie chier et puis il repart, quoi. Et tout le reste,
j'ai pas besoin que tu viennes m'entraîner, limite, en fait.
Ouais, c'était
et là,
ça.
Tu te dis mais c'est pas cohérent, en fait, j'ai pas besoin que tu viennes me chercher, me lever, je peux me lever. Mais en fait, de toute façon, t'as beaucoup de tournures de récits comme ça. Il y a un point, moi, je trouve, qui est pas hyper, important dans le film, et pourtant, ils t'en font un petit truc autour de ça, c'est qu'en fait, c'est un déserteur.
Oui.
Et du coup, t'as l'impression que c'est mis là. Je trouve que le personnage de Tom Hardy est un personnage extrêmement antipathique. C'est-à-dire que... et j'ai pas trop de problèmes avec cette idée-là, si dans le fait que le personnage puisse se comporter comme un con, ce qu'il fait clairement, hein, tu lui donnes en fait des petites raisons à ce comportement-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui donnes en fait des petits trucs que seul le spectateur sait. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un con avec tous les autres, mais au spectateur, tu lui donnes en fait ces petites bribes d'informations qui fait ouais, mais en fait, je suis de son côté. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut fonctionner. Là, le problème, c'est que le film ne le fait pas. Ou quand il essaye de le faire, c'est un espèce de gros truc sur comment t'appelles ça, le fait qu'il aurait sauvé des membres de son escouade en Irak, tu veux, quand il a essayé de déserter, il est tombé sur eux, et en fait voilà. Et il a vaguement aussi, il essaye de faire, en fait, il fait tout ça pour...
Il veut gagner les 5 millions du tournoi de MMA.
Pour mettre la femme de son meilleur ami, son frère d'armes, en fait, à l'abri. Mais ça, c'est pareil, c'est des structures, en fait, où tu te dis pourquoi pas. tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout habité. C'est pas du tout intégré. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est juste là pour te justifier certains trucs. C'est-à-dire justifier le comportement de connard, justifier que Messi, regarde, c'est quand même un personnage, il faut que tu t'attaches à lui parce qu'il a un passif de héros. Il est hors la loi. C'est-à-dire que, en fait, la police est censée venir le chercher à la fin du tournoi. Pourquoi à la fin du tournoi? ils savent le trouver, ils peuvent l'arrêter tout de suite.
Ouais, c'est
que des trucs
on
comme ça.
On attend que ça, en fait.
Voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça qui sont, en fait, il n'y a pas de jeu de suspense, il n'y a pas de jeu dramaturgique sur ces trucs-là. Il y a cette notion-là. Et alors, le plus gros problème pour moi, c'est vraiment cette notion où, en fait, on va te mettre. Parce que pour moi, avant de voir le film, alors c'est peut-être pas de la faute de Gavin O'Connor, ça, mais avant de voir le film, ce qui était vendu, c'était attention, c'est deux frères. Qui vont se foutre sur la gueule dans un match de MMA, donc en fait le drame, tu imagines tout de suite l'aspect dramatique ultra puissant et tout, et en fait à la fin c'est pour moi, hein, on est plus dans le pathos que dans la véritable émotion, quoi. Donc du coup tu sors du film en te disant, bon, c'est pas un mauvais film en soi, si tu veux, c'est difficile de dire que c'est un mauvais film, quoi.
Non.
Mais c'est pas un film très intéressant, au final, voilà, si ce n'est que sa vraie spécificité, c'est effectivement, c'est un des très rares films qui traite avec sa toile de fond du MMA et qui essaye, en fait, de jouer avec cette histoire-là, voilà. Mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, en fait, avec ce sujet-là, même si dramaturgiquement parlant, encore une fois, le principe du MMA, à mon sens, pousse, comment dire, à justement se poser des questions de comment tu vas monter les combats plutôt d'avoir des répétitions de combats, des trucs comme ça, quoi.
C'est ça. Et surtout, pour te rejoindre là-dessus, moi, ce qui me manque, en fait, c'est qu'on te montre, en fait, la science du MMA, en quoi ce sport est intelligent ou peut être intéressant à suivre au-delà du simple aspect spectaculaire. C'est-à-dire, quand tu regardes Rocky, il y a un enjeu quand il combat Apollo Creed dans le premier, c'est-à-dire il doit tenir au moins 10 rounds. Il le formule à Adrian et on voit Rocky qui combat, qui résiste au chaos, qui tient debout, etc. Donc le spectateur lambda, il a un point d'ancrage avec la boxe. Il se dit, ok, il y a 10 rounds, faut que le mec il tienne, et s'il fait ça, déjà c'est un exploit. Ok. Quand tu regardes, je vais prendre un autre exemple. Quand tu regardes à la poursuite d'Octobre Rouge, moi j'y connais rien en stratégie de sous-marin, en déplacement, etc. On me donne juste une pièce, c'est-à-dire la manœuvre d'Ivan Le Fou. On me la montre. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Je comprends un peu mieux les enjeux parce que la mise en scène.
C'est une stratégie d'échec, en fait.
C'est ça.
De jeu d'échecs.
Et là, en fait, on te donne rien. On te vend cette. On te donne en filigrane cette idée de musicalité où, en gros, l'idée ce serait. Alors, pour vous l'expliquer rapidement, c'est que chaque combattant a un rythme dans sa tête. C'est-à-dire, quand tu as ton jeu de jambes, c'est comme si tu écoutais une musique. Et comme en boxe, et la stratégie, en fait, pour l'adversaire, c'est de trouver la musique du combattant adverse pour casser son rythme et ensuite le déstabiliser et prendre l'ascendant. Moi, je ne vois pas ça dans le film. Je vois des combats. C'est un film qui est filmé à 95% à la caméra à l'épaule.
Je pense que c'est exactement la problématique qu'on disait sur le montage, en fait, sur le training montage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il a 5 caméras autour de la cage. Deux dedans, et puis voilà, en fait il shoot, enfin peut-être pas 5 caméras, j'exagère, mais
il avait pas le budget.
Ouais, voilà, mais en tout cas il a, parce que Tom Hardy c'est une star maintenant, mais à l'époque où il a fait le film, c'en était pas forcément une à ce point-là, c'était quelqu'un qui commençait à vraiment monter, il avait même pas encore fait le film qu'il a un petit peu révélé, même si bon, enfin lui il était très bien dedans, mais le film c'est une catastrophe à mon sens, hein, c'est Bronson, de Nicolas Winding Refn, mais c'est, en tout cas c'est clairement le film qui lui a donné une aura qui lui a permis d'avoir des films comme Mad Max derrière et tout, quoi.
Voilà, on est habitué à ce jeu un peu exagéré, un peu poussif de Tom Hardy, mais là c'est vrai que dans son personnage de Tommy, il est exécrable, c'est un connard fini de bout en bout, et même à la fin quand il se réconcilie avec son père, bon c'est pas vraiment suffisant.
Non, en fait, même avec le truc, c'est, si tu veux, c'est que en fait, tout ça, ça fonctionnerait. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner, encore une fois, si, bon, je te disais, il y avait ça, cette notion de donner un accès à quelque chose qui le rend comme ça, pour que le spectateur le comprenne. C'est-à-dire, à défaut de l'apprécier, il le comprend, et quand tu le comprends, bah, tu l'apprécies un peu plus. C'est ça aussi la logique, quoi. Alors que... mais c'est pareil, c'est sa relation avec son frère. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, alors, je spoil, hein, l'issue du combat, c'est l'un qui dit à l'autre je t'aime, Et en fait, ça s'arrête là. En fait, parce qu'il y a cette notion qui est pour le coup un petit peu mise en avant dans les règles du MMA, c'est que quand tu te fais soumettre, t'as celui qui va tenir le coup, et c'est ce que fait le personnage de Orton, c'est-à-dire qu'en fait, il se fait soumettre très régulièrement, mais par contre, il tient le coup, donc en fait, c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est qu'il n'a pas une technique de combattant, comment dire, en tout cas de ring, tu vois, à proprement parler, d'octogone, quoi. Mais là, par contre, il a une, comme Rocky, une volonté de tenir, ce qui fait que, en fait, quand même des grands combattants finissent par, abandonner, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire tapoter pour dire voilà, I'm out, tu vois, je suis dehors, tu vois, lui ne le fait pas. Et en fait, du coup, c'est ce qui est dans le truc final, c'est ce qui permet de régler la situation du combat entre les deux frères. S'il y en a un qui dit je t'aime à l'autre, je vous laisse voir qui que quoi, mais en fait, et l'autre abandonne parce qu'il fallait à un moment donné se poser la question de, effectivement, dramaturgiquement parlant, lequel des deux allait gagner.
Allait lâcher.
Voilà.
Et justement, bah, maintenant, pour défendre un peu le film, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le personnage de Joel Edgerton, qui est plutôt bon dans ce rôle-là, qui brille un peu par son humanité. Moi, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le regard, je trouve qu'il a un regard assez puissant. Et pour ça, et en fait, justement, c'est un personnage qui, je trouve, est un peu dans la limite des clichés de l'époque, c'est-à-dire... à l'époque, on avait des films qui nous vendaient à tout va la crise économique, des gens qui perdent leur maison, etc.
Ouais, c'était même juste après 2008, effectivement.
Voilà. Ouais. Et on avait beaucoup des films qui artificiellement, je pense notamment à Take Shelter de Jeff Nichols, qui te vend tout un passage là-dessus, alors que le film pouvait très bien s'en passer. Ça parle complètement d'autre chose. Là, par exemple, quand 10 ans après, je revois Warrior et que je revois la scène où Brendan est à la banque et discute justement de sa traite financière, etc. Bah, le truc est vendu parce que n'importe qui peut avoir ce genre de problème. C'est quelque chose qui fonctionne encore. Quand je vois son conflit avec sa femme, où justement il lui cache qu'il fait des combats clandestins, il cache ça aussi à son employeur, donc un lycée, le directeur de son lycée. Tout ça, en fait, c'est des choses qui fonctionnent un peu, parfois peut-être un peu trop surlignées, mais c'est des choses qui tiennent à peu près l'histoire.
Moi, j'ai deux trucs, en fait, où je comprends pas trop pourquoi sa femme, elle accepte, si tu veux, au bout d'un moment, et qu'elle a pas compris qu'en fait, le mec était parti pour faire des combats. Et le deuxième point, c'est que, alors, pour le coup, tout ce qui est lié, et pas seulement, j'ai envie de dire, à son, directeur d'école, mais aussi à tous les élèves, c'est... en trop, pour moi. C'est-à-dire que vraiment, en gros, tous les élèves qui veulent monter une charité, en fait, pour lui permettre de sauver les traites de sa maison ou je sais pas quoi, c'est un truc... vu que ça n'a aucune incidence narrative, en plus,
non,
c'est typiquement le genre de truc que j'aurais taillé dedans. Alors après, je comprends que ça peut créer, de l'empathie, pour le coup, pour le personnage, si tu veux, par défaut, c'est-à-dire par travers les personnages et ce qu'il lui renvoie. Mais c'est pareil, moi, je trouve ça un peu artificiel.
C'est
quoi.
Pas habile, mais c'est quelque chose qui permet un peu de faire tenir le personnage, ce qu'on n'a pas du tout, en fait, dans le rapport entre Tommy et son père. Quoi. C'est qu'il n'y a rien du tout, c'est Tommy s'entraîne tout seul à la salle... On voit jamais
en plus,
son,
c'est un film qui se veut être un récit assez direct, assez immédiat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de truc comme ça. C'est vraiment, en fait, on va dans le c'est d'un point, le mec, c'est le retour du fils non prodige, en l'occurrence, tu veux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur vie? Et en fait, ça se termine sur ce tournoi. Quoi.
Et c'est d'autant plus dommage, en fait, parce que le Gavin O'Connor, lui, à la base, il ne voulait pas faire ça sur le MMA. Il voulait faire ça, je crois, sur la boxe ou sur un autre sport. Il avait déjà réalisé un film sur le sport qui était Miracle, son premier film avec Kurt Russell.
Je crois que ce n'est pas sorti en France.
C'est sorti en vidéo. Et d'ailleurs, il vient de ressortir un nouveau film qui n'est pas sorti en salle à cause du Covid et qui est sur les plateformes, qui s'appelle The Way Back avec...
Alors c'est sorti aux salles aux États-Unis, mais c'est resté très peu de temps et en fait ça a été balancé directement.
C'est ça. Et avec Ben Affleck. Ouais. Et en fait, Gavin O'Connor, à la base, l'idée de son film, c'était de raconter ce que lui a vécu parce que lui-même a été séparé de son frère. Et en fait, il voulait traiter ce sujet-là. Il a trouvé que le MMA était une bonne opportunité. Enfin, je pense pas qu'il le voyait vraiment comme une opportunité de manière mauvaise, mais juste voilà, c'était un sujet qui n'avait pas été traité au cinéma, en tout cas de manière à peu près correcte. Il voulait se lancer là-dedans, et oui, c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'il avait envie de raconter une histoire de frères qui se séparent et qui se retrouvent, et au final, ça prend pas tout à fait. Et une dernière chose, l'un des problèmes que tu pointais sur la scène de la plage. Gavin O'Connor reconnaît lui-même dans le commentaire audio que cette scène ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lui-même, il s'explique en disant que c'est une scène qu'il a trop donné à jouer pour le casting, et qu'une fois sur le plateau, il savait plus trop
comment les
gérer, comment dépasser en fait, comment aller plus loin dans la scène, etc. Il était un peu à court de solutions. Et moi, c'est vrai que cette scène-là,
sans refaire le film, si tu veux, le problème, c'est que moi, je pense que cette scène aurait dû se passer dans un diner. C'est-à-dire, ça aurait dû être un truc où ils sont gênés presque de se gueuler dessus, en fait, mais qu'en fait, ça dépasse les problématiques et que tu vois que les gens autour d'eux, en fait, se disent qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent foutre le bordel, qui gueulent entre eux, tu vois, alors que là, ils sont sur la plage, il y a personne pour les. Cette problématique, en fait, si tu veux, elle est pas dramatiquement parlant, elle est pas habitée. C'est-à-dire que c'est vraiment deux frères qui se gueulent dessus et je te filme le décor en large, tu vois, pour te montrer que ça se passe à Atlantic City, mais on s'en fout. Ça pourrait se passer n'importe où aux États-Unis. La problématique, c'est les personnages, c'est ces personnages-là. Et ce que nous, en fait, en tant que spectateurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et pourquoi ils sont à ce point ? On a compris que la mère est morte, on a compris que le père était violent. Ouais. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'en dehors de ça, entre deux, on ne sait pas. Et moi, je t'avoue, en fait, comme je ne le ressens pas, je ne sais pas plus. En fait,
entre deux, en fait, c'est Tom Hardy qui lâche le truc, c'est-à-dire qu'il reproche à son grand frère
de ne pas l'avoir suivi.
D'être parti avec sa meuf.
Mais...
Et le problème, moi, ce que j'ai envie de pointer, c'est que je pense que c'était une scène aussi qui aurait pu permettre un peu de noircir le personnage de Joel Edgerton. C'est-à-dire que lui, en même temps, qu'il assume aussi un peu d'être parti et ses raisons pour lesquelles il avait envie de partir, parce que c'est complètement humain aussi. Hein. On est
jeune adolescent,
on a une famille qui est dysfonctionnelle et on a juste envie de se barrer. Enfin, voilà.
Non, mais je pense que t'as raison. Mais bon, c'est vrai que voilà, le truc, c'est que d'un côté, il n'y a pas un équilibre entre les deux. Ouais, ouais. C'est-à-dire que t'en as un qui est beaucoup trop cool. Beaucoup trop, genre, lui, je le comprends, c'est
Handsome,
le prolo, ouais. Il est sympa. Ouais, voilà. Et l'autre, c'est le bourrin qui éclate les gars en un coup de genou et qui finalement, en fait, a une colère énorme en lui. C'est ce qui le drive, en fait, pour gagner, on va dire, jusque-là. Et que la seule personne qui pouvait effectivement, éventuellement, se mettre en travers son chemin, c'est son frangin. Mais bon, c'est vrai que c'est déséquilibré. Moi, à mon sens... Pour boucler en fait un peu la boucle, ce qui est intéressant dans le film, c'est cette manière de présenter l'univers du MMA, même si je pense que cet univers-là mérite mieux au cinéma, on va dire, mais au moins il a ce mérite en fait d'avoir cette toile de fond, un tantinet original à l'époque où le film est sorti, encore un petit peu aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de film le relais, en tout cas de grands chefs-d'œuvre comme Rocky peut l'être. En fait, parce que Rocky, c'est pas vraiment un film sur la boxe non plus, c'est ça le truc à la fin. C'est une métaphore, on va dire. De la vie, là c'est pas le cas, mais par contre il y a au moins le mérite en fait de présenter le MMA en fait au-delà de l'image que le sport peut avoir.
Alors, on a fini sur le film, mais je voulais un petit peu revenir sur deux trois petites anecdotes sur l'UFC.
Ouais.
Donc l'UFC, c'est l'organisation principale, c'est un peu la ligue des champions du MMA. C'est un peu l'UFC qui a lancé aussi le MMA.
Et l'UFC, Ultimate Fighting Championship.
C'est ça. Et il y a maintenant 30 ans de ça. Mmh. En 91, quand il y a eu le premier UFC, le MMA n'existait pas.
D'accord.
C'était un... Comment on appelle ça ?
MMA pour Mixed Martial Arts. Il faut le
préciser. Mixed Martial Arts, voilà, tout à fait. Mixed Martial Arts, c'est le sport. Ouais. L'UFC, c'est une fédération.
C'est la compétition.
Il y en a d'autres qui existent, etc. Et en fait, le principe de l'UFC, c'était simplement... tous les coups sont permis. C'était blood sport. C'est-à-dire, on prenait un judoka, on le mettait face à un capoeiriste. Démerdez-vous. On ne faisait pas attention au poids et à la taille, etc. Et est-ce que tu sais pourquoi l'octogone est l'octogone ?
Non, tu vas me le dire.
En fait, le directeur artistique qui s'appelle Jason Cusson, qui dans les années 80 devait designer une arène de combat pour l'UFC, s'est dit, tiens, il y a un petit film de Chuck Norris que j'aime bien. Ça s'appelle La Fureur du Juste, The Octagon en anglais. Et du coup, il s'est dit, quand je pense combat libre,
je pense
Chuck Norris. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça, c'est une anecdote qui a un peu été contredite par un de ses collaborateurs qui lui avait expliqué que c'était surtout pour pas donner davantage aux combattants selon les disciplines et pour aussi avoir de meilleurs angles de caméra pour vendre le sport.
Parce que il faut le préciser quand même, c'est un sport en fait, qui arrive à une époque médiatique. Ce qui n'était pas forcément le cas de la boxe ou ce genre de choses. Donc, le sport n'a pas été pensé de cette manière-là. Alors que là, pour le coup, c'est, voilà. C'est pour ça que.
Ça a été d'abord vendu comme un spectacle avant de devenir un sport.
Et le vrai truc, c'est que dans l'absolu, justement, c'est là où le film est un peu. Je trouve c'est un peu dommage. C'est qu'il n'a pas cet attribut-là. C'est-à-dire de se dire, putain, mais je peux faire quelque chose d'hyper, comment t'appelles ça, cinématographique avec ce sport-là, quoi.
C'est ça. D'ailleurs, sais-tu. Deuxième question.
Ah,
allez, je te fais un
trivial
poursuite. Pourquoi est-ce qu'on a choisi. On a choisi une cage et pas des cordes?
Parce que c'est des putains de sauvages.
Non, t'étais pas loin de la réponse, mais en fait, c'est simplement que John Milius, qui était un élève qui faisait du jiu-jitsu brésilien avec le directeur marketing de l'UFC, qui s'appelle Art Davy, il a été consulté donc par Art Davy pour lui demander son avis. Tiens, voilà, on est en train de préparer une fédération de sport spectacle. Mmh. On aimerait avoir ton avis sur l'arène. Et en fait, lui, il a dit, mettez une cage, c'est beaucoup plus brutal. Ouais. Voilà. Et il a été crédité comme directeur artistique derrière. D'accord. Quoi, voilà.
Ouais, j'étais pas loin, quoi.
Ouais, t'étais pas loin. Oh.
En fait, c'était un trivia de deux questions. Quoi.
Oui, c'était deux petites questions comme ça.
Non, mais en plus, c'est lié au cinéma, donc c'est ça. C'est intéressant.
C'est ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'UFC s'est beaucoup inspiré du cinéma pour créer, bâtir aussi sa légende et son spectacle. Quoi.
Ça marche. Bah, merci Alain.
Merci à toi.
Merci à nos auditeurs. Alors, le film est disponible en Blu-ray chez Metropolitan. C'était sorti, c'est une de nos sorties dans Stéroïdes, le podcast le plus récent, en fait, mine de rien. On parle peu... du cinéma, bon, c'est pas un film d'action, mais du cinéma d'action de ces dernières années, donc profitons-en, là, vous pouvez vraiment découvrir le film si vous voulez le voir, ça existe en Blu-ray. Merci à nos auditeurs, donc merci à nos tipeurs, à ceux qui nous, qui ont déjà donné, et si vous voulez donner, bah, c'est sur tipeee.com, mot-clé son capture mag. J'allais dire, il faut que je remercie Alain, mais j'ai déjà remercié Alain, donc c'est formidable. En fait, il a choisi d'apparaître dans l'épisode, il m'a dit, pour être sûr que tu vas être remercié. Quoi. si vous voulez nous écouter, c'est les agrégateurs de podcasts habituels, c'est-à-dire que en fait, nous, on a migré sur Acast, donc si vous cherchez nos podcasts en premier lieu, c'est vraiment là qu'il faut aller, parce que c'est là où vous pouvez télécharger le MP3 si vous voulez le prendre directement pour le mettre sur votre téléphone, par exemple, ou l'écouter sur votre ordinateur. Mais on est aussi sur SoundCloud, Deezer, etc., etc. Tout ça, c'est des applications qui existent si vous l'écoutez sur votre téléphone. Et puis moi, je vous dis un grand merci à tous, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.